RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Parmi les invités au réveillon de Noël, il y a bien sûr les oncles, les tantes, les grands-parents, les cousins et j'en passe. Mais il y a aussi les souvenirs, les nombreux souvenirs, ceux de l'enfance, ceux des temps heureux, ceux que la nostalgie a transformés. Mais que faire de nos souvenirs? Faut-il les cultiver ou s'en débarrasser? On regarde ça de plus près ce matin avec nos invités dont Je pense donc j'agis. Et pour ne pas les oublier, ces souvenirs, et faire travailler sa mémoire, on parlera dans la seconde partie de l'émission des ateliers mémoire qui se développent ici et là pour que chacun fasse travailler ses neurones pour ne pas perdre la mémoire. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Venez nous parler de vos souvenirs. Est-ce que vous cherchez à les chasser de votre vie? Et puis quel type de souvenirs vous essayez de les chasser? Comment les racontez-vous et à qui? Et comment les conservez-vous? Et enfin, est-ce que vous avez des pièces manquantes dans vos souvenirs? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis avec Madeleine Vatel, vous ne m'avez pas oublié, j'espère. Bonjour Madeleine.
Mais non. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Alors Melchior, vous avez peut-être lu il y a deux jours l'interrogation de certains journaux sur le souvenir que laissera Johnny Hallyday avec une inquiétude, celle qui ne s'estompe trop vite. À vrai dire, la question des souvenirs, elle est presque quotidienne. Il y a ceux que l'on voudrait oublier, il y a ceux que nous voudrions garder à jamais. Mais c'est pas si simple, notre mémoire est vulnérable, nous pouvons même, sans le savoir, créer de faux souvenirs. Alors la science n'en finit plus de découvrir justement tous ces mystères. La littérature en a fait une source d'inspiration incroyable. Et puis, dans la Bible, si tous les souvenirs ne sont pas bons à cultiver, il y a une injonction à ne pas oublier l'alliance avec Dieu. Alors ce matin, nous croisons ces différents regards pour répondre à ces questions. Que faire de nos souvenirs et comment sont-ils constitutifs de ce que nous sommes? Y a-t-il un moyen pour que nos souvenirs deviennent nos meilleurs alliés? Comment un livre peut-il éveiller ce qui semblait oublié à jamais? Quelle place du souvenir dans les récits bibliques? Bref, autant d'approches pour faire que nos souvenirs soient un véritable allié pour les siècles des siècles.
Et pour en discuter, Madeleine, jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir trois invités.
Alors on accueille Antoine Nuis, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes théologien protestant, vous avez publié plusieurs ouvrages sur la Bible et notamment un commentaire intégral verset par verset. Avec nous également le docteur Bernard Croisil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, chef du service de neuropsychologie à l'hôpital neurologique de Lyon et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur la mémoire. Et puis, nous rejoindra bientôt Jeanne Sautière. Elle est écrivain. Elle a vécu à l'étranger et notamment au Cambodge, qui est au cœur de son dernier livre qui s'appelle « Corps flottant ». C'est le sixième livre. Il est publié aux éditions Verticales. Elle sera avec nous dans quelques minutes. Et je commence avec vous, Bernard Croisil. Vous êtes scientifique, vous êtes docteur, vous êtes neurologue. Comment ça fonctionne, un souvenir?
En fait, un souvenir personnel, ça appartient à une composante de la mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique. Donc justement, c'est la mémoire des épisodes de notre vie avec quatre caractéristiques. Tout d'abord, c'est unique. On ne vit qu'une seule fois un épisode de sa vie, donc un souvenir est unique. Il est forcément daté et localisé. Et le quatrième élément très important, c'est que, à côté des composantes sensorielles ou motrices d'un souvenir, c'est-à-dire les aspects visuels, auditifs, olfactifs, gustatifs, tactiles, etc., on enregistrera une composante émotionnelle extrêmement forte et importante. Si vous voulez vous rappeler une date de l'histoire de France, il y a moins d'émotions que si vous devez vous rappeler ce que vous avez vu hier au cinéma ou ce que vous avez vécu comme journée professionnelle. Donc cette composante émotionnelle est extrêmement importante au niveau des souvenirs, à la fois parce que cette composante émotionnelle sera retenue, je peux me rappeler que c'est un souvenir plaisant ou déplaisant, et parce que cet élément émotionnel, au moment de la constitution du souvenir, pourra agir comme un catalyseur, c'est-à-dire faciliter l'enregistrement du souvenir, ou au contraire, en diminuer l'enregistrement ou l'impact.
Et alors Antoine Nouis, vous venez d'entendre Bernard Croisil. Dans la Bible, est-ce qu'il y a une définition biblique du souvenir? Est-ce que même le mot hébreu peut nous aider dans cette compréhension du souvenir?
Alors ben le grand mot, c'est le mot de mémoire, hein. Et la mémoire est effectivement totalement fondamentale, importante. Je vais juste prendre un tout petit exemple. Vous prenez le Nouveau Testament, vous ouvrez la première page du Nouveau Testament, le premier chapitre, c'est quoi? C'est une généalogie. C'est une généalogie qui part d'Abraham pour arriver jusqu'à Joseph. C'est-à-dire que c'est le souci d'inscrire l'Évangile, d'inscrire la naissance du Christ dans une histoire, et dans une histoire qui remonte très haut, qui remonte à Abraham. Et de ce fait-là, cette ouverture-là est un signe d'être un peuple de mémoire, un peuple qui est invité à relire son histoire, et un peuple qui est invité à inscrire la présence de Dieu, la révélation de Dieu dans sa propre histoire.
Est-ce que l'émotion entre en compte dans la Bible? On entendait le docteur Bernard Croisil dire que c'est presque au cœur de ce qui va faire qu'un souvenir va rester ou va être maintenu d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a une place pour l'émotion dans la mémoire et dans le souvenir dans la Bible?
Eh bien, évidemment, parce que la mémoire, ça n'est pas une mémoire rigoureuse de tout ce qui s'est passé exactement. C'est une mémoire sélective, c'est une mémoire qui met en avant des événements importants. C'est-à-dire qu'il y a des souvenirs qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Et de ce fait-là, quels sont les souvenirs qui sont privilégiés? C'est bien évidemment les souvenirs qui sont les plus importants pour nous, les souvenirs qui sont signifiants pour notre propre histoire. Mais tous dans notre, ce qu'on appelle le travail de la mémoire. Le travail de la mémoire, c'est le travail qui consiste à savoir quels sont les souvenirs qu'on va conserver et quels sont ceux qu'on va oublier. Je veux dire, le propre d'une mémoire, c'est que c'est un panachage d'oubli et de souvenirs, et qu'est-ce qui fait qu'il y a certains éléments qu'on va oublier et d'autres dont on va se souvenir? Eh bien ça, alors effectivement, c'est ce qui représente, ce qui est important pour nous, c'est-à-dire ce qui active nos émotions.
Jeanne Sautière, vous nous avez rejoint. Vous ne pourrez pas dire que, effectivement, les émotions restent à côté des souvenirs. Vous avez vous-même vécu au Cambodge entre 1967 et 1970. C'est au cœur de votre dernier livre intitulé Corps flottant, publié aux éditions Verticales. À ce moment-là, vous êtes au lycée et vous écrivez dans votre livre: je n'en garde que si peu de souvenirs, bien moins que d'années antérieures de mon enfance en Iran. La violence de cette disparition est prodigieuse. Comment vous expliquez cette disparition de vos souvenirs, en partie parce qu'il en est question dans l'ouvrage?
Ah, alors c'est l'objet du livre. Ouais. Effectivement, c'est ce qui l'a généré, en fait. C'était le fait d'être extrêmement étonné de constater que par rapport à d'autres périodes de ma vie, il y avait cet estompage presque total des choses. Alors il y a beaucoup de choses rentrent en compte. Déjà, il y a des choses que je ne saurais jamais, puisqu'elles ne reviendront jamais au jour. Mais on les ressent, on les intuite, on a on construit quelque chose autour aussi de l'absence de mémoire. Quelque chose se construit. Et là, si vous voulez, je pense que d'avancer dans cette réflexion-là m'a conduit au point noir de l'histoire du Cambodge. C'est-à-dire, moi, j'ai quitté le Cambodge juste au moment où la guerre commençait, la guerre avec la destitution de Sihanouk et l'arrivée d'un gouvernement un peu particulier au Cambodge. Puis, il y a eu l'arrivée des Khmers Rouges, que je n'ai pas connue, mais il y a eu quand même tout le massacre, donc, qui a été perpétré par eux. Et il me semble que c'est vers ça que je ne voulais pas aller. Et c'est de ça dont je ne voulais pas me souvenir.
Mais donc, le refus d'un souvenir.
C'était la peur. C'est la peur, parce que je vivais une petite vie d'adolescente pas particulièrement traumatisante, sauf que ce pays a été celui, effectivement, qui a été l'objet de beaucoup de choses extraordinaires pour moi. La découverte du pays lui-même, mais aussi la rencontre avec un homme que j'ai infiniment aimé. Et puis, voilà, tout s'est disloqué, tout s'est détruit. des gens que je connaissais sont morts. Enfin bon, il y a eu tout ce que... Mais si vous voulez, comment vous dire, ça n'est pas conscient, ça. Mmh. C'est-à-dire que à aucun moment, en attaquant ce livre, je voyais qu'il y avait quelque chose qui résistait, mais à aucun moment, je me suis dit, c'est l'histoire Khmer Rouge que je ne veux pas affronter. Mmh. Et il a fallu que je rencontre le travail de Ritipan, et justement, le travail qu'il a fait, c'est ce qu'il appelle l'image manquante, qui est aussi donc une forme de trouée dans la représentation des choses, peut-être pas dans la mémoire, mais dans la représentation des choses, pour que j'ose avancer vers cette histoire.
Ritipan, juste en deux mots, c'est un réalisateur hein, qui a travaillé justement pardon, sur cette période avec cette pièce manquante, cette image manquante précisément.
Oui, Ritipan, oui, c'est un réalisateur khmer, donc qui lui a été victime aussi, dont la famille est morte aussi du fait des exactions des Khmer Rouges, et qui a voulu raconter cette histoire. Et le faisant, il s'est trouvé en prise avec quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire, c'est-à-dire que rien n'était là pour représenter l'horreur, rien. Alors il a fait quelque chose d'assez magistral, un geste qui est à la fois artistique et éthique, c'est-à-dire qu'il a demandé à un jeune Khmer de sculpter des petites statues en bois qu'il a peintes, et il a fait des petites scènes, comme un petit théâtre, où il a reconstitué des petites scènes de la vie quotidienne, des scènes qui se sont passées pendant la guerre, et il a comme ça redonné quelque chose de l'ordre, justement, parce que ces images sont extrêmement émouvantes. Elles tiennent sur le fil et elles sont fondées, justement, sur l'émotion qu'elles génèrent, émotion que peut-être des images... lesquels, d'ailleurs, grand Dieu, n'auraient pas pu générer à ce point-là. Mmh. Et du coup, ce geste qui était de déplacer quelque chose, de construire quelque chose autour et non pas dans la frontalité, je pense que ça a été ce qui m'a permis d'écrire ce livre, oui. Mmh.
Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je pense donc j'agis pour nous parler des souvenirs. Que faire de nos souvenirs? Est-ce qu'il faut les cultiver ou s'en débarrasser? Vous nous appelez au 04 72 38 20 23 où nous attend Monique. Bonjour à vous Monique.
Eh ben, bonjour Melchior. Alors moi je veux vous dire que la société actuelle a perdu ses racines. Et c'est le drame de la société actuelle. Alors surtout, gardez vos souvenirs. C'est quelque chose de très précieux que vous ne pourrez pas acheter, que vous ne pourrez pas reproduire, etc. Et moi-même, j'ai donc retrouvé, notamment avec le confinement, ou je ne sais quoi, ou senior quand vous êtes à la retraite, c'est une activité qui est, bien sûr, il y avait aussi sur l'arbre généalogique, mais moi j'ai découvert des trésors déjà. Pour faire simple, vous avez les photos de famille, les photos que vous pouvez faire plaisir à une personne âgée, qu'elle écrive derrière qui est qui et qui est qui, parce que ça c'est utile, sinon on ne sait pas ce que ça veut dire. Et elle, ça lui fait plaisir parce que ça lui rééduque sa mémoire.
Ouais. Alors la mémoire, on en parlera notamment dans la seconde partie de Je pense donc j'agis. Monique, n'hésitez pas à rappeler d'ailleurs. On verra comment vraiment faire travailler sa mémoire, exercer ses neurones pour ne pas justement oublier quelques souvenirs. Mais c'est intéressant ce que vous dites et je vous remercie de nous avoir appelé dans cette émission. Antoine Huys, je vous donne la parole. Les souvenirs, c'est aussi la mémoire de nos anciens.
Mais absolument, mais dans la Bible, dans le Premier Testament, il y a trois, on dit tu te souviendras, et il y a trois points dont on doit se souvenir. Un, tu te souviendras que tu as été libéré, c'est-à-dire tu te souviendras de d'où tu viens, tu te souviendras de ta propre histoire, et c'est la relecture de ta propre histoire qui permet de donner du sens à tes journées d'aujourd'hui. Ensuite, tu te souviendras de l'alliance, tu te souviendras qu'un Dieu est un Dieu qui est venu faire alliance avec toi. Et le troisième point, ça c'est intéressant, c'est tu te souviendras d'Amalek. Et Amalek, dans le Premier Testament, c'est le symbole du mal. Mmh. C'est le symbole de celui qui, dans la mémoire collective, a voulu détruire Israël. C'est-à-dire, tu garderas les yeux ouverts face face au mal qui te menace. Et donc cette ces trois points de souvenir, souvenir de son histoire, souvenir de l'alliance, souvenir de d'Amalek, sont des peut-être impératifs, d'éléments qu'il ne faut pas oublier dans ce travail de mémoire qui fait que nous sommes vivants, car après tout, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à notre mémoire, c'est grâce à ce que nous avons appris, c'est grâce à ce que nous avons vécu. Et c'est cela que nous devons organiser, c'est à cela que nous devons donner du sens pour arriver à savoir comment nous comporter aujourd'hui.
Mmh. On va continuer avec Marie-Josée, décidément, vous êtes rapide ce matin. Bonjour à vous Marie-Josée.
Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Dans ma famille, beaucoup ont écrit leur mémoire. Et je crois que le plus ancien commence par mes parents, où je suis née en 1791. Mmh. Bon, évidemment, il y a eu des chaînes manquants, comme on dit. Mais celle qui est le plus proche de nous, c'est ma mère, qui a écrit ses mémoires. Donc, elle était née en 1907. Elle a fait des études, elle était licenciée en histoire, et elle a fait des études et elle a raconté son enfance avec d'un côté sur un cahier technique qui était marqué en gros couture. Et donc d'un côté on mettait le machin qu'on avait fait, par exemple une chose de couture.
Ouais, enfin, c'était
de l'autre côté comment on faisait.
Ouais.
Et alors sur le côté blanc, elle racontait son enfance, tout ce qui nous intéressait.
Marie-Josée, c'est une manière, en tout cas, on l'entend, de transmettre. Voilà, et ça aussi, ça a son importance. Merci de nous avoir appelé, Marie-Josée, au 04 72 38 20 23. On a beaucoup de choses à dire, hein. Je me permets de vous couper la parole. Bernard Croisil, qu'est-ce que ça apporte d'écrire ces mémoires comme ça?
D'abord, il y a une différence entre écrire ses mémoires et écrire un journal. Ça a été étudié. Ce que vous écrivez au jour le jour dans votre journal est plus théoriquement entaché de véracité, de vérité, que les mémoires que vous écrivez 20 ans plus tard. Et donc il y a eu des comparaisons comme ça extrêmement intéressantes. Sinon, le principe d'écrire son journal ou ses mémoires, c'est le principe de s'arrêter, de poser ses valises un instant et de se dire finalement quel a été mon parcours. Si c'est celui de la journée, c'est assez simple. Si c'est celui d'une vie, c'est un peu plus complexe. Mais il est clair que votre personnalité et l'évolution de ce que vous êtes va modifier le rappel de vos souvenirs. Déjà, quand vous comparez deux personnes qui ont vécu le même événement et que vous comparez leurs récits, que ce soit le lendemain ou même quelques semaines ou quelques mois plus tard, il y a des différences. Mais vous-même, étant donné que vous évoluez dans la vie, ce que vous pouvez vivre il y a 10 ans sera vécu avec votre personnalité et votre culture et votre histoire du moment, alors que 10 ans plus tard, quand vous allez vous rappeler, enfin, vous essayez de vous rappeler dans vos mémoires ce que vous avez vécu il y a 10 ans, eh bien la personne qui est en train de l'écrire à l'instant présent n'est plus tout à fait la même personne qu'il y a 10 ans, parce qu'elle a une nouvelle histoire, elle a de nouvelles rencontres, etc. Et on sait que les mémoires sont forcément entachées de petites modifications, pas forcément d'inventions, ce qu'on appelle les faux souvenirs, mais très souvent de distorsions.
Vous, justement, la vie, c'est peut-être la première source d'inspiration. Les souvenirs, sa propre vie, Saint-Augustin, Montaigne, Chateaubriand, Georges Perec, Nathalie Sarraute. De nombreux écrivains ont cherché à s'inspirer de leur propre vie, de leurs propres souvenirs. Vous avez fait, vous, cette expérience de retrouver des souvenirs et de chercher à écrire à partir de ces souvenirs. Est-ce que vous diriez que c'est finalement véritablement la première inspiration pour vous ?
Jeanne Sautière, est-ce que vous êtes avec nous ?
Ah oui, oui, je ne savais pas que la question était adressée.
C'est pour vous.
Est-ce que vous pouvez juste me redire la question ?
Oui, l'idée c'est d'essayer de comprendre comment dans la tradition littéraire, le souvenir c'est finalement souvent la première inspiration.
Oui. Alors, écoutez,
la question pour moi est de travailler. Moi, je ne travaille pas sur le champ romanesque. Hein. Je travaille pas vraiment la fiction non plus. Je travaille à partir de récits qui sont constitués par des expériences que j'ai éprouvées. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de travailler à partir d'un matériau le plus proche de quelque chose que je peux vérifier et non pas inventer ou imaginer. Non pas qu'il n'y ait pas d'imaginaire dans mon écriture, j'espère qu'il y en a un peu quand même, beaucoup même, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment quelque chose attrapé comme ça dans l'existence peut rendre compte aussi d'un fait collectif ou d'une question que nous traversons tous d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pas tant le champ autobiographique ou récit de soi qui m'intéresse, c'est récit du monde en fait, en tant que j'en atteste, en tant que personne. Voilà, mm-hmm. C'est plutôt ça, comme ça la démarche. Le souvenir, oui, moi je vais forcément essayer de travailler. Par exemple, j'ai écrit un livre sur la question des vêtements. Je suis vraiment allée vérifier des choses vraiment dans mon placard pour voir si ce que je disais était absolument exact. J'ai besoin de trouver une exactitude qui n'est pas que matérielle d'ailleurs, qui est aussi une exactitude morale, une exactitude de sentiment. Parce que sinon, j'ai l'impression que je ne sais pas, je ne saurais pas construire mon travail autrement que comme ça.
Antoine Nouys, dans la Bible, justement, le souvenir personnel, comment est-ce qu'il peut rejoindre une identité collective, je dirais? Est-ce qu'on observe chez les personnages de la Bible une façon de faire avec ses souvenirs et qui permet justement à d'autres de pouvoir s'y retrouver?
Mais je crois que la mémoire, elle est à la fois individuelle et collective. Hein. Mais ce sur quoi je voudrais peut-être insister, c'est que la mémoire, elle est éminemment subjective. Je veux dire par là que si jamais vous voulez, par exemple, si jamais vous voulez me demander de que je vous raconte ma journée d'hier, si jamais je voulais tout vous raconter, ben, il me faudrait 24 heures pour raconter ma journée. Alors évidemment, que vous me posez la question qu'est-ce qui s'est passé hier, je vais vous répondre en fonction de... Qu'est-ce qui ont été les étapes marquantes pour moi? Alors, si je suis fan de foot, je vous parlerai du mondial. Si je suis fan de littérature, je vous parlerai du livre que j'ai lu. Si j'assistais à un événement traumatisant, je vous en parlerai. C'est-à-dire que, évidemment, la mémoire, elle est par définition sélective. C'est qu'on retient ce qu'on a besoin de, ce qui nous fait, ce qui nous a marqué ou ce qu'on a besoin de savoir. Et puis, la mémoire, c'est aussi un travail de sélection. Il faut savoir aussi oublier ce qu'on n'a pas besoin de retenir. Parce que sinon, notre mémoire serait encombrée. Elle serait, le propre de la pensée, le propre de la mémoire, c'est être capable de faire des tris. Alors, maintenant, pour répondre directement à votre question, c'est la façon dont mon tri à moi s'inscrit dans, ma mémoire personnelle s'inscrit dans une mémoire collective. Et ça, je dirais que c'est la démarche communautaire, la démarche d'un peuple, d'une nation. C'est comment est-ce qu'une mémoire commune rejoint la mémoire personnelle de chacun? Et ça, c'est vrai pour un pays, c'est vrai pour une église, c'est vrai pour des personnes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, de la Bible.
Docteur Bernard Croisil, je vous rappelle certaines expressions qui existent, comme il a une mémoire d'éléphant, ou alors il a une super mémoire. Est-ce que chacun a la possibilité de se rappeler de tout, de tous les détails? Comment ça se fait que certaines personnes ont cette capacité à se rappeler beaucoup plus de certains détails que d'autres?
Alors, il y a deux parties dans votre question. D'abord, ouais. Il vaudrait mieux dire mémoire d'éléphante, parce que ce sont les éléphantes qui ont une très bonne mémoire et pas les éléphants. ensuite, il y a effectivement des personnes qui se rappellent mieux que d'autres, mais ce que vous disiez aussi, c'est des personnes qui se rappellent tout. Alors là, c'est quelque chose de rarissime et de terrifiant, ce qu'on appelle les hypermnésiques, même si le terme hypermnésique a plusieurs acceptions. Mais en gros, il y a des personnes, effectivement, qu'on appelle hypermnésiques et qui se rappellent pratiquement tous les souvenirs de leur vie. Alors, c'est difficile de le vérifier complètement parce que, comme le disait Antoine tout à l'heure, pour raconter une journée, il faudrait une journée pour le raconter, ainsi de suite. Mais on a des personnes, effectivement, qui ont été étudiées, qui sont très rares, et heureusement, parce que c'est assez catastrophique pour elles, ce vécu. Moi, j'en ai vu qu'une fois dans ma vie, et c'est épouvantable comment elles sont. Mais vous avez des personnes qui ont cette capacité de se rappeler la plus grande partie de leurs souvenirs du quotidien. Borges l'avait raconté aussi dans une nouvelle. En fait, ces personnes, bon, la plus connue, c'est Veniamine, c'était un journaliste soviétique qui ne prenait jamais de notes en salle de rédaction. Donc, son rédacteur lui dit, mais pourquoi vous prenez pas de notes? Il dit, ben, je me rappelle tout. Alors, il l'a mis à l'épreuve, il se rappelait tout. Et il était capable de tout mémoriser. C'est-à-dire qu'il a fini sa vie dans une sorte de music hall. C'est-à-dire qu'on lui faisait apprendre une liste de 400 mots. Il lui fallait à peu près 5 minutes pour les mémoriser. Il était capable de les dire à l'endroit, à l'envers, etc. Mais ce qui est terrifiant, c'est que 10 ans après, il était capable de redonner cette liste de 400 mots, et il était aussi capable de dire, je les ai appris un jour, j'étais à tel endroit, et j'étais dans un music hall, et là, au premier rang, il y avait une dame habillée en rouge, un monsieur en bleu, etc., etc. Et puis, il était capable de vous dire, ben voilà, les nuages avaient telle forme, il faisait tel temps, etc. Donc, il avait à la fois une hyper capacité à apprendre et à mémoriser des listes de mots ou des listes de chiffres, et il était aussi capable de se rappeler son quotidien, donc ce qu'on va appeler, là, cette fois-ci, les souvenirs. Mais le problème, c'est que sa vie devenait un enfer, parce que si vous savez ce que disait Antoine tout à l'heure, il faut avoir la possibilité d'oublier, parce que si vous vous rappelez tout, vous avez l'esprit encombré de choses sans intérêt et vous n'êtes plus en mesure de choisir. Parce que dans la vie, on est obligé de faire des choix, et si vous avez 10 000 possibilités dans votre choix, bah, vous serez plus lent à choisir que à décider que si vous avez trois ou quatre choix. Et c'est vrai que l'oubli, qui n'est pas un mécanisme actif, qui est un mécanisme un peu passif, l'oubli a cette vertu de nous éviter d'être encombrés de choses qui nous détruiraient notre personnalité et notre vie. Tous les hypermnésiques finissent très mal au plan psychologique et au plan psychiatrique.
Voilà, mémoire d'éléphante, et on note la petite précision. On va marquer une pause dans, je pense, donc j'agis, vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. On parle des souvenirs ce matin. Est-ce que vous cherchez à en chasser certains de votre vie? Et lesquels d'ailleurs? Et puis comment les racontez-vous et à qui? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis. À tout de suite.
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle?
Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin. Et on a du chagrin, on se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région,
c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol,
je t'aime.
Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, serre-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Papa, y'a
Bye.
répétit.
Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent.
À nos souvenirs, les trois cafés gourmands sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Madeleine Vatel.
Et nos trois invités pour nous accompagner dans cette émission consacrée aux souvenirs. Antoine Nouis, je rappelle que vous êtes théologien. Docteur Bernard Croisil, vous êtes neurologue et chef de service de neuropsychologie à l'hôpital neurologique de Lyon. Et puis Jeanne Sautière, vous avez écrit un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Corps flottant, aux éditions Verticales. Madeleine, on continue.
Alors c'est une question pour Jeanne Sautière parce que on l'évoquait, l'écriture convoque les souvenirs, mais la littérature, la lecture peut aussi réveiller des souvenirs. Ça a été votre cas, Jeanne Sautière. En lisant Marguerite Duras, vous retrouvez soudain quelque chose, vous dites, qui aspire irrémédiablement. Les livres nous débordent. Ça va être le cas dans Les corps flottants. Comment est-ce que la littérature peut susciter chez celui qui découvre ces textes de nouveaux souvenirs? Est-ce que vous avez eu des témoignages?
Oh ben je pense que ce sont des expériences, pour le coup, de lecteurs et qu'on fait tous. Ce qui m'a beaucoup frappée dans certains livres, pas dans tous d'ailleurs, dans certains livres, c'est la capacité qu'ils ont d'être absolument inépuisables. C'est-à-dire on peut les relire 20 fois, on est toujours dans la même suspension de l'incroyable de ces livres. On les redécouvre à chaque fois, non pas comme s'ils n'avaient pas existé, mais ils se présentent toujours comme nouveaux et neufs. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui tient au grand livre de nos vies, quoi. On n'en a pas tant que ça. Je pense que si on en a, allez, une trentaine, c'est bien le bout du monde. Mais quand même, c'est une expérience étonnante de constater ça. Alors, est-ce que, oui, les livres tombent vraiment dans nos vies, tout simplement parce qu'ils nous touchent par plein de choses et qu'ils appartiennent complètement à notre existence, à un point où ils sont parfois confondus avec elle. Et je me souviens par exemple d'avoir prêté à une amie qui partait en vacances la Storia de Elsa Morante, qui est un très beau livre sur la guerre en Italie, dans lequel il y a un petit personnage qui s'appelle Giuseppe. Et puis elle part en Amérique latine, je n'ai plus de nouvelles d'elle et je reçois un jour une carte postale me disant c'est absolument terrible, Giuseppe est mort, c'est horrible, je ne sais pas comment je vais m'en remettre. Et moi, j'étais sidérée parce que je me disais, il y a eu un accident dans son groupe de voyage. Mais non, Giuseppe, c'était le petit personnage du livre et il était pris dans sa vie comme les héros des livres, de nos livres, le sont, quoi. Donc, je pense que ça fonctionne effectivement comme du vivant, le livre.
Antoine Nouis, vous ne direz pas le contraire. Le pouvoir des textes sur le souvenir, vous êtes en permanence dans la Bible.
Alors moi je travaille pas mal la Bible, oui. Et puis le propre de la démarche de foi, c'est quoi? C'est à relire les textes bibliques à la lumière de notre vie, relire notre vie à la lumière des textes bibliques, c'est-à-dire comment les histoires, ma propre histoire rentre en résonance avec les histoires bibliques, et c'est ça qui me construit, et c'est ça qui donne aussi, voilà, un de la force et de la vie à ma lecture, et puis c'est ça aussi qui me constitue en tant que sujet croyant.
Alors justement, le souvenir comme constitutif de la personnalité, Bernard Croisil, c'est important aussi qu'un texte puisse justement faire émerger des choses qu'on croyait oublier finalement.
Les souvenirs constituent notre personnalité, bien sûr. Enfin, tout dépend de la définition de la personnalité. Mais ce que nous sommes, c'est à la fois c'est la combinaison de nos souvenirs, c'est-à-dire ce que nous avons vécu. Et c'est la associé à ce que nous savons, ce qu'on va appeler là plutôt nous la mémoire sémantique, puisque ce que nous savons, nos savoirs, nos connaissances, tout ceci est orienté un peu par ce qui nous intéresse. Donc au fil du temps, Bernard Croisil serait, c'est une équation où d'un côté il y a tout ce que j'ai vécu, et puis de l'autre côté, entre guillemets, tout ce que j'aime, tout ce qui m'intéresse, tout ce qui me motive, et ça constitue une espèce de d'équation qui me définirait. Et tout ceci va finalement interagir, c'est-à-dire que comme on ne peut pas oublier volontairement un souvenir, ce qui va se passer, c'est que notre histoire de vie et nos centres d'intérêt vont agir d'une certaine façon comme catalyseurs pour mieux retenir certains souvenirs ou certains savoirs, ou au contraire, moins bien les retenir, les oublier petit à petit, parce que effectivement ils sont moins marquants émotionnellement ou moins intéressants dans notre histoire de vie et dans ce qui nous constitue en termes de savoir et de connaissances.
On va accueillir Didier tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Didier.
Oui, bonjour.
Allez, c'est à vous, on vous écoute.
Oui, oui, je voulais simplement signaler, j'ai étudié la langue khmer pendant 6 longues années à l'INALCO à Paris. Et j'ai vécu aussi au Cambodge, j'ai travaillé avec des artistes cambodgiens. Et je voulais simplement signaler que ça pourra faire peut-être réagir vos invités, en particulier la personne qui a
Jeanne
écrit...
Jeanne Sautière.
Voilà, qu'en cambodgien, on dit, concernant ses souvenirs, qu'on les a devant les yeux, donc on les regarde et on voit ses souvenirs. Et pour l'avenir, c'est le contraire. Comme on ne le connaît pas, il est derrière nous et on se retourne vers son avenir et on avance vers ses souvenirs.
Ah bah écoutez Didier, vous nous inspirez ce matin. Merci beaucoup de nous avoir appelé dans Je pense donc j'agis. Jeanne Sautière, je vous fais réagir très logiquement.
Moi, je trouve ça absolument magnifique et je vous remercie beaucoup de m'avoir livré ça, parce qu'il y a quelque chose effectivement qui pourrait apparaître pour nous occidentaux comme un renversement de ce que nous mettons en œuvre par rapport à la question du souvenir. Mais en fait, c'est extrêmement juste, oui. Très, très beau. Très belle citation. Oui. Merci beaucoup.
Merci Didier de nous avoir appelé dans Je pense donc j'agis. On va continuer avec Marguerite. Ça n'arrête pas ce matin. Bonjour Marguerite.
Bonjour, je vais
vous laisser couper votre radio derrière, Marguerite, comme ça on n'entendra pas l'écho. Hein ?
Parce que les souvenirs sont très présents en moi. Vous parliez de littérature. Je ne sais pas si j'aime George Sand parce qu'elle évoque mon arrière-grand-mère qui était berrichonne comme elle, qui parle de la Creuse, qui parle de paysages connus. Je ne sais pas aussi si j'aime les roses et leur odeur parce que là aussi, ça évoque des souvenirs précieux. Donc, une odeur de gâteau, de tarte par exemple, de tarte aux cerises. Et tout d'un coup, je suis petite fille. Voilà.
Eh bien écoutez, là encore, ça vient apporter du grain à moudre dans cette émission. Docteur Bernard Croisil, c'est ce qu'on appelle la mémoire olfactive, si je me trompe pas.
En fait, un souvenir comporte les cinq composantes sensorielles, donc tactile, gustative, olfactive, visuelle et auditive. Et chaque souvenir donc est marqué par certaines de ces composantes de manière plus ou moins intense. Et comment est-ce qu'on peut se rappeler un souvenir ? Ben, il y a deux façons. Il y a une manière volontaire. Qu'est-ce que j'ai fait cet été pendant mes vacances ? Donc là, il y a une recherche un peu active qui prend parfois un petit peu de temps. Et puis, à la manière inopinée, c'est celle qui est un peu évoquée, c'est-à-dire que vous ne pensez pas du tout à ce que vous avez fait cet été, mais soudain, vous voyez une tarte aux abricots et vous sentez l'odeur de cette tarte aux abricots. Et soudain, ça vous rappelle, alors que vous n'étiez pas dans cette recherche active de cette réminiscence du souvenir, ça vous rappelle cette journée du mois d'août où vous étiez avec des amis et il y avait cette superbe tarte aux abricots. Bon, ça a été décrit par Proust, bien évidemment, mais c'est une expérience magnifiquement décrite par Proust, mais que nous vivons tous de manière inattendue. Soudain, un souvenir nous revient. Et ce qui est plus frappant, c'est que très souvent, nous pensons qu'il avait été oublié. En fait, il n'avait pas été détruit, il n'avait pas disparu, il était un peu enfoui, on va dire. Et un des éléments sensoriels de ce souvenir, lorsque vous êtes confronté, aujourd'hui à un élément sensoriel de ce souvenir, ça va retirer la totalité du souvenir, un peu comme ces filets faits avec des boules en verre, où vous avez une boule en verre, vous tirez la boule en verre et l'ensemble du filet vient. Donc, effectivement, un élément olfactif va pouvoir rappeler un souvenir dans lequel il y avait cette participation olfactive.
Le parfum fait beaucoup cet effet, notamment.
Alors, disons, toutes les odeurs. Après, oui, ça dépend de votre profession. Par exemple, la mémoire olfactive des pompiers, elle n'est pas vraiment sur le mode des parfums, mais ils ont une capacité à identifier au sein d'un incendie certaines odeurs qui vont leur faire comprendre une partie du mécanisme de l'incendie. Donc, la mémoire olfactive sera développée par les métiers. Alors, bien sûr, le nez des parfumeurs est bien connu, mais le nez des chirurgiens est aussi très bien connu pour identifier certains foyers d'infection, etc. Et la mémoire olfactive va se travailler naturellement par le métier que vous vivez, comme la mémoire auditive, bien sûr, pour les musiciens et d'autres personnes.
Docteur Bernard Croisil, vous parlez des souvenirs qui arrivent sans qu'on les demande, mais vous évoquiez aussi, il y a quelques minutes, les souvenirs qu'on n'arrive pas à oublier. On ne peut pas oublier volontairement un souvenir. Vous dites, c'est assez terrible, ça?
C'est terrible, mais facile à comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote de l'ours blanc et de Tolstoï. Tolstoï, quand il était jeune, avait été mis au défi par son frère de ne pas penser à un ours blanc. Donc il l'a mis dans un coin d'une pièce, il dit « ne pense pas à un ours blanc ». Et bien évidemment, il n'a fait que penser à un ours blanc. Et c'est un peu la même chose pour un souvenir. À partir du moment où on vous dit « oublie ce souvenir », ben, vous ne faites que l'ancrer davantage, puisque vous vous mettez dans une situation totalement active de penser à ce souvenir en vous disant « je vais l'oublier ». Donc volontairement, on ne peut pas oublier un souvenir, puisque vous ne faites qu'augmenter le processus d'ancrage, qui est un processus biologique de renforcement, etc. Donc l'oubli, il est finalement naturel, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, soit parce que vous n'utilisez pas ce souvenir ou cette connaissance ou ce savoir, soit parce que vous y avez moins d'intérêt. C'est là où l'émotion, quand je dis l'émotion, c'est dans toutes ses dimensions, la motivation, l'intérêt, etc. Quand vous avez moins d'intérêt pour un souvenir ou pour une connaissance, bah forcément, ce souvenir sera moins ancré déjà, sera moins enregistré et plus difficile à retrouver. Là, on parlait du mondial tout à l'heure, je m'intéresse pas beaucoup au foot. Il est clair que je ne suis pas certain que dans 6 mois, je me rappelle tous les épisodes de footballistiques actuels, alors que quelqu'un qui est passionné par le foot sera capable de vous dire, ben voilà, France-Danemark, c'était tel score, France-Pologne, c'était tel score. Je suis pas certain que dans 2 mois, je m'en souviendrai, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi.
Mais que faire de nos mauvais souvenirs? Comment les oublier? Comment passer à autre chose?
Ben, si vous essayez de le faire consciemment, vous n'y arriverez pas. Après, vous avez des techniques de psychothérapie dont le but est d'amoindrir, de réduire la force émotionnel de certains souvenirs. C'est ce qu'on fait avec les thérapies cognitivo-comportementales ou avec le MDR, je ne sais pas ce que c'est, cette technique basée sur les mouvements oculaires, et dont le but est justement de désamorcer cette force de liaison extrêmement puissante entre les éléments essentiels d'un souvenir « j'ai vécu telle chose » et la participation émotionnelle qui a été disproportionnée de manière souvent logique. On est bien d'accord, hein, si vous êtes impliqué dans un attentat, dans un viol, dans un souvenir de guerre, etc., il est clair que la force émotionnelle est excessive, et elle est trop liée aux éléments du souvenir, ce qui fait que l'ancrage et la réminiscence seront beaucoup trop rapides, et en particulier, un peu comme la baleine de Proust, si vous avez subi un événement traumatisant à côté d'une poubelle rouge, à chaque fois que vous passerez devant une poubelle rouge, vous aurez une sorte de flashback immédiat, instantané, et avec toute la récupération émotionnelle de ce que vous avez vécu. Et c'est ça que les techniques psychothérapiques vont essayer de faire, c'est de désamorcer cette liaison trop forte, de façon à amoindrir à la fois le rappel, mais aussi la force, l'intensité de la force émotionnelle.
Antoine Nouis, est-ce que l'oubli dans la Bible est important?
Dans la Bible, je ne sais pas très bien, mais pour organiser notre mémoire, bien sûr. Vous savez, dans la... Il y a peut-être quelque chose que je pourrais rapprocher là au niveau biblique. Vous savez, au niveau biblique, le jugement de Dieu dans l'Épître aux Corinthiens, il est décrit de la façon suivante. Il dit notre vie est un mélange de pierres précieuses. Alors il dit l'or, l'argent, les pierres précieuses, et notre vie est aussi un mélange de choses qu'on n'a pas besoin de retenir. Alors il dit du bois, du foin, du chaume. Et dit le jugement de Dieu, c'est un feu qui passe sur notre vie, c'est que c'est un feu qui élimine tout ce qui n'a pas besoin d'être retenu pour ne retenir d'une personne que ce qu'il y a de plus beau et de plus grand en elle. Et souvent, ce travail-là, d'ailleurs, c'est un travail qu'on fait assez volontiers avec nos parents, avec nos défunts, ceux qui nous sont quittés. Moi, j'ai remarqué que dans toute vie, à un moment, il y a des frottements, il y a des souvenirs positifs et des souvenirs qui sont moins précieux. Et souvent, le travail de la mémoire avec le temps, ben quelque part, les mauvais souvenirs ont tendance à s'estomper pour ne garder d'une personne que ce qu'il y a de meilleur. Et ça, je trouve que c'est le travail de la mémoire. Et ce travail-là, il est magnifique.
Garder d'une personne ce qu'il y a de meilleur, Jeanne Sautière, est-ce que ça vous parle? Vous dites au début de votre ouvrage que vous êtes retourné sur les lieux comme une bête sur des traces, trouver les traces de ses souvenirs et garder ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que ça vous parle?
Je suis pas sûre que je voulais garder ce qu'il y a de meilleur. Je voulais renouer avec quelque chose que j'avais rompu. Et c'était ça qui me préoccupait. Mais je pense que c'est important aussi de garder quelque chose de nos peines et de nos chagrins, de nos douleurs, ne serait-ce que pour les laisser faire le travail qu'elles ont à faire aussi en nous. Il y a un travail aussi de la douleur qui n'est pas qu'une chose horrible et négative. Elle l'est évidemment, puisqu'elle coûte quelque chose. Mais en même temps, on fabrique aussi ce qui permet de dépasser ça. Et je pense que c'est cette création qu'on fait avec nos traumatismes, nos mauvais souvenirs, qui nous constitue aussi dans notre identité humaine.
On va accueillir Marie-Christine au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Christine.
Oui, bonjour. Écoutez, je voulais vous donner mon témoignage. J'ai ma maman qui a 104 ans, qui va avoir 104 ans la semaine prochaine, et elle a une mémoire étonnante de beaucoup, beaucoup de choses, mais souvent avec beaucoup de détails. Et notamment, hier, nous étions avec ma sœur et nous évoquions, à cause du grand froid, en 1956, ce premier jour où elle est allée nous acheter des pantalons, parce que les filles n'en mettaient pas à ce moment-là. Et donc, elle m'a dit, oui, je m'en rappelle très bien, c'était rue Jean de Tourne, le nom du magasin, je ne vais pas faire de pub, il n'existe plus. Voilà. Et donc, c'était vrai, parce que moi, j'avais ce souvenir, je m'en rappelais aussi très, très nettement. Et beaucoup, beaucoup d'anecdotes, bien sûr, avec des souvenirs, comme elle a beaucoup voyagé, des lieux, c'est étonnant qu'elle souvienne les lieux. Et puis, une autre petite chose que je voulais dire, c'est que quand on est très âgé, qu'on garde intact beaucoup de souvenirs, ils deviennent envahissants. Parce que les bons souvenirs restent, et c'est très bien, mais les souvenirs de choses plus difficiles sont aussi présentes. Et pour accompagner le vieillissement avec tous ces souvenirs, c'est compliqué. Voilà.
Eh ben, c'est très intéressant. Merci Marie-Christine pour votre appel dont je pense. Donc j'agis. Docteur Bernard Croisil, c'est incroyable. 104 ans et toute sa tête hein, pour la maman de Marie-Christine. Par contre, ça peut être envahissant. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure.
Les souvenirs qui encombrent.
Oui. Chez les hypermnésiques, effectivement, où ils vivent très difficilement cette capacité de dire, moi, celle que j'avais vue m'avait dit, bah, écoutez, chez mon médecin, j'ai vu qu'il avait déplacé un livre dans la bibliothèque derrière lui. C'est comme si j'avais deux interviews avec Antoine, et puis que je me rappelle dans six mois qu'il a déplacé un livre dans sa bibliothèque.
Ou qu'il avait un bonnet
derrière lui, là, exactement. Donc c'est effectivement dans ces situations-là, les souvenirs sont envahissants, mais comme le disait Jeanne, c'est important que les éléments, enfin nos souvenirs un peu tristes, un peu compliqués, font partie de nous-mêmes. Donc le problème, c'est de trouver un équilibre, parce que si vous avez trop de souvenirs tristes, eh bien vous risquez d'en avoir des conséquences sur votre psychisme. Et si vous n'avez que des souvenirs heureux, vous avez une espèce d'indifférence à la vie et vous perdez une partie de vous-même, puisque nous sommes aussi ce que nous avons mal vécu. Et c'est vrai qu'en pathologie, par exemple, les dépressifs ont une propension plus importante à se rappeler les souvenirs négatifs que les souvenirs positifs. Et si on leur fait, par exemple, apprendre une histoire à connotation positive et une histoire à connotation négative, ils vont davantage se rappeler l'histoire négative que l'histoire positive, alors que quelqu'un qui n'est pas dépressif se rappellera davantage l'histoire positive que l'histoire à valence négative. Mais notre vie ne peut pas se faire dans un mode actif qui est « je ne veux garder que ces souvenirs et je veux oublier ». oublier ceci. Vous êtes bien obligé d'accepter le fil de votre vie, qui est quand même conditionné, comme je le disais, par ce que vous êtes et ce que vous savez et quels sont vos centres d'intérêt et de motivation. Mais parfois, il y a un déséquilibre et certains souvenirs sont trop envahissants. Et ça, en tant que biologiste, en tant que cognitiviste, on n'a pas le moyen d'orienter dans une direction plus que l'autre. Il faut avoir un peu d'humilité et accepter notre vie et notre fil de vie.
Dans cette question, Anne Sautière, il y a aussi le rapport aux souvenirs des autres. C'est aussi quelque chose que vous évoquez dans Corps flottant avec ce moment que vous passez avec votre maman et vous écrivez qu'elle a des séquences très anciennes de sa vie qui reviennent. Notre auditrice évoquait ce lien avec sa maman également de 104 ans. Comment est-ce que vous faites avec les souvenirs des autres, en quelque sorte ?
Alors, déjà, ma mère avait une démence sénile, donc elle n'était pas du tout dans la situation de la mère de l'auditrice dont on vient d'entendre. Mmh. Et effectivement, ce qui me frappait, c'est qu'elle se souvenait pas du tout de ce qui s'était passé il y a 5 minutes, et très très bien que son frère avait jeté son chien dans la mare, etc. Et il y avait de ça, enfin, dans son enfance. Bon, mais alors comment on fait avec les souvenirs des autres ? Mais je pense qu'on en fait ses propres souvenirs parfois, c'est-à-dire que quelque chose des autres, c'est comme avec ce qu'on disait avec les livres tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose des autres nous arrive et on l'intègre comme quelque chose qui devient notre bien propre. Et c'est ce qui fait aussi que c'est une dimension de l'altérité aussi, il n'y a pas une frontière absolue. Entre soi et l'autre, il y a quelque chose de perméable, ça va des uns aux autres. Et effectivement, moi j'ai eu un métier où effectivement j'ai écouté beaucoup de gens. C'était ce que j'adorais dans ce métier, c'était d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Et c'est vrai que j'ai une grande mémoire, plus grande finalement, à l'égard de ce qu'ils m'ont raconté qu'à l'égard parfois de mes propres souvenirs. Mais c'est une aspiration aussi, je pense. C'est comme ça pour moi, parce que je le souhaitais aussi un peu comme ça.
On va accueillir Marie-Jeanne tout de suite au 04 72 38 20 23. Marie-Jeanne, bonjour.
Bonjour. Je voulais vous poser une question, parce que je m'étonne moi-même. J'ai été violemment agressée. En fait, c'était pas violent, mais c'était outrageant, au possible. C'était dans une relation de soignant-soigné. J'étais soi-disant la soignée. Et la soignante m'a agressée. Je passe les détails.
Oui.
J'en ai le souffle coupé. Et je l'ai confrontée dans la semaine qui a suivi avec une témoin. Tout était féminin dans cette histoire-là. Je l'ai confrontée. Je lui ai dit, voilà, vous m'avez fait ça. Ça a provoqué telle réaction physiologique en moi. J'en suis stupéfaite. Je ne comprends pas. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle l'avait fait. Je lui ai simplement dit, voilà ce que je vis moi avec mon corps.
Oui.
Elle savait pertinemment ce qu'elle avait fait.
Il y a une confrontation, c'est ce qu'on entend aussi dans votre témoignage, qui a permis, dans une moindre mesure, d'alléger en tout cas l'impact sur vos souvenirs. C'est intéressant, docteur Bernard Croisil, Marie-Jeanne qui ne comprend pas forcément comment ça a pu arriver, justement cet allègement finalement de la situation.
Oh, il faudrait passer beaucoup de temps et on est un peu dans un domaine intime, donc je peux pas aller très 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 loin.
Mais en tout cas, est-ce que parler d'un souvenir soulage ?
Alors c'est très controversé parce que vous savez que dans des situations d'attentats, d'accidents violents, de circulation aérienne, etc., on va faire ce qu'on appelle un débriefing. C'est-à-dire qu'on va demander aux personnes de raconter ce qui s'est passé. Donc on a toujours eu le sentiment que ceci aidait et en effet permet de soulager l'anxiété et la dépression. Mais en fait, on se rend compte que sur le long terme, ça peut au contraire, en demandant aux personnes qui étaient peut-être en train d'oublier ce qui s'est passé, en leur demandant de se le rappeler, ça ancrait une nouvelle fois le souvenir et ça pouvait favoriser le développement ultérieur d'états de stress post-traumatique.
Mais... Bon sujet en tout cas, et merci à tous les auditeurs qui sont intervenus pendant cette émission. Merci docteur Croisil, on vous entendait à l'instant, vous êtes neurologue et vous travaillez à l'hôpital neurologique de Lyon. Merci Antoine Ouiz, vous êtes théologien et protestant passionné par la Bible. Merci beaucoup Jeanne Sautière, écrivain, vous venez de publier un livre qui s'appelle Corps flottant, c'est votre sixième livre, il est publié aux éditions Verticales. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci Madeleine et merci à Aurore également qui a vraiment permis la réalisation de cette émission. On va se retrouver dans un instant. Alors on va travailler ses neurones hein, pour ne pas oublier, pour garder sa mémoire avec des ateliers mémoire. À tout de suite sur RCF.